sens que l'enregistrement a commencé. C'est une façon de donner du sens qui passe aujourd'hui, plus par les icônes que par les idées.
Alors nous avons observé un phénomène d'interférence, et le phénomène d'interférence est compréhensible que si l'on admet qu'il y a une onde qui a été partagée en deux, qui s'est reconduite et qui a
interféré. Mais aujourd'hui, il nous faut encore élargir le mouvement. Nous ne sommes pas encore suffisamment nombreux.
Sans pas qu'on ait dit, il y a la bande en Cisjordanie dans la bande du Gaza. Le Gaza.
La radiographie, c'est l'écriture en radio.
Donc l'expérience que j'ai de la radio, elle est double. Je suis un ancien journaliste radio. Donc j'ai fait de la radio à France Culture principalement et un petit peu à Inter où j'étais chroniqueur. Et ensuite, je suis devenu un des participants de l'émission Les Papous dans la tête. Mais l'expérience que j'ai de la radio, dans un cas comme dans l'autre, c'est d'abord une expérience qui n'est pas une expérience de direct. Donc ça signifie très peu d'improvisation, beaucoup de travail sur table, avec ensuite restitution, ce qui donne des voix différentes, ce qui donne des tons différents, ce qui donne des phrasés différents. Donc je suis dans un travail majoritairement de chroniqueur, c'est-à-dire quelqu'un qui va lire un texte, qui est un texte qui est fait pour l'oral, donc un texte construit comme un texte destiné à la radio, mais qui n'est pas un texte, disons, spontané. Il y a une belle différence entre un texte spontané, comme celui que je suis en train de faire en ce moment, par exemple, dans une réponse spontanée, entre guillemets.
Mais ça, c'est très intéressant pour moi.
J'espère de vous donner des réponses intéressantes. Et donc, cette différence entre la notion de spontanéité radio et la notion d'écriture radio, elle est importante. On ne fait pas, par exemple, de journal radio, un journal informationnel radio, en improvisant ce qu'on va lire. On lit toujours un texte, ça donne également un phrasé spécifique avec ce qu'on appelle le glissando, hein, que vous connaissez, cette musique de la phrase en fin de phrase, qui n'est absolument pas la phrase française, qui est une phrase spécifique radio, où à la fin on finit par rester toujours sur une certaine corde, voilà, ce qui n'est absolument pas naturel. Et voilà, ça fait des jolies différences. En revanche, le phrasé papou est un phrasé qui est très proche du phrasé naturel. On essaie de se rapprocher d'une sorte de conversation. Mais le phrasé radio de chroniqueur, c'est un phrasé d'une personne qui rentre chez quelqu'un, par effraction, que ce soit sa voiture, que ce soit son domicile, et où on s'impose. Donc on ne parle pas pareil chez quelqu'un chez qui on s'impose que chez un ami chez qui on arrive et chez qui on discute. Donc le papou est un ami, et le chroniqueur est un invité. C'est pas du tout pareil.
D'accord, donc les papous, par exemple, c'est une émission extrêmement montée.
C'est une émission qui est très montée pour donner l'illusion du faux direct. Et elle existe. Alors ça dépend des intervenants, il y en a qui sont plus dans la lecture que dans le véritable faux direct. Mais c'est avant tout un travail de montage. Au départ, celui qui était chef monteur, c'était Yann Parenthoven, qui est une des figures de la radio en France, qui est même un artiste de la radio, qui était capable de poser un micro dans une école maternelle et de faire 8 heures d'émission fascinantes, rien qu'avec du son. Et les gens qui travaillent au papou, qui sont monteurs, sont des artistes. C'est-à-dire ils sont capables de sentir ce qu'on peut garder, ce qu'on ne va pas garder, savoir garder l'hésitation parce qu'elle est importante, savoir garder des éléments vocaux qui appartiennent à ce qu'on peut appeler l'erreur naturelle, hein, l'erreur naturelle du discours. Évidemment, le problème, ce sont ce que je viens de faire là, ce système de double répétition ou les E qui peuvent poser des problèmes.
Les hésitations, tu vois, justement.
Donc toute une série de choses qui ne sont pas nécessaires du tout à la radio, mais qui dans la conversation font son naturel. Il y a un moment à partir duquel il y en a trop, et un moment à partir duquel il n'y en a pas assez. Donc tout est dans cette juste mesure qui donne l'illusion du direct et qui donne l'illusion de la vie, quoi.
Mais justement, vous avez dégagé une notion, le faux direct. Pourquoi finalement, à partir du moment où on est capable de faire un vrai direct, pourquoi est-ce qu'on ferait du faux direct ?
On fait du faux direct parce qu'on n'est pas capable de faire du vrai direct, justement, fondamentalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va bafouiller sur une phrase et on va perdre du lectorat, enfin, je m'entends, enfin, de l'audimat ou de l'auditoire, parce que, ou en tout cas, une qualité d'audition à cause de ça. Les textes des papous sont souvent très écrits. On peut très bien, comme en plus on lit son propre texte qui est écrit sur un bout de papier avec un crayon, avoir du mal à se relire, tout simplement. Et donc, un phénomène qui n'arrive pas dans une autre émission parce qu'on a des choses tapées machine, on n'a pas ça au papier. Nous, on écrit sur du bout de papier, avec parfois des ratures, on a du mal à se relire. Donc, le faux direct est indispensable. On ne peut pas être en direct. C'est très compliqué, le direct.
Mais pourtant, ici, vous animez des ateliers qui semblent improvisés. Je ne sais pas si improvisés, mais vous semblez tout à fait à même d'improviser comme ça. Mais pourtant, alors, ma question, en fait, ce serait, est-ce que le dispositif radiophonique, le studio, les radios, etc., le studio et les micros, etc., ça vous amène à vous dire que vous n'êtes pas capable de mener un direct comme ça?
Je crois qu'il y a une différence. Je pense qu'on pourrait mener un débat en direct entre les intervenants. Il faut avoir des intervenants dont la qualité de discours va de pair avec une densité. Si on a la qualité sans la densité et la densité sans la qualité, rien ne va. Donc il faut trouver des intervenants un peu spéciaux qui ne sont pas des gloseurs et qui ne sont pas des phraseurs. Alors, c'est pas facile. La différence fondamentale entre une animation d'un atelier ou une animation d'une conférence, c'est que les gens qui sont dans la conférence, ils s'accrochent à votre visage, à votre bouche, à votre voix, mais pas seulement à votre voix. Quand on est en radio, on n'a que votre voix. Donc ça donne forcément une attention qui est plus diffuse. Il faut, pour capter le même niveau d'attention que par rapport à une émission, par rapport à un entretien classique où on vous voit, avoir les mêmes réflexes d'écoute que pour une radio normale. Je pense toujours à ces gens qui viennent de l'écrit et qui commencent à faire de la radio et qui font de l'interview et dont on entend tout le temps le parce qu'ils répondent en fait à la personne qu'ils interviewent en signifiant leur accord de pensée ou en tout cas en donnant un encouragement sonore. Cet encouragement sonore à la radio, c'est insupportable. On ne peut pas avoir quelqu'un qui fait derrière quand quelqu'un a une phrase. Donc il y a une sorte de distanciation et d'effacement de l'intervieweur en radio qu'il n'y a pas dans la réalité. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous allez avoir des gestes, vous allez avoir des bruits. Donc la radio fait disparaître tout ça pour que l'auditeur n'ait pas cette sensation d'être confronté à une conversation. L'auditeur qui écoute un interview, il veut uniquement la parole de l'autre et pas la présence du journaliste. Donc c'est un travail d'effacement. Au Babou, c'est pareil. Il y a un travail de présence et simultanément d'effacement. Les deux font que l'émission marche, je crois que c'est vrai.
Donc la conversation, d'une certaine manière, n'est pas possible à la radio?
Non, je crois qu'il n'y a pas de conversation à la radio. Je crois que la radio, c'est de la radio, la conversation, c'est de la conversation. Je crois qu'on se tromperait. On peut faire de la conversation surtout à la télévision, des talk shows, parce qu'il y a de l'image et qu'on se soutient avec l'image et qu'à la limite, il y a une sorte d'empathie avec la personne qui parle parce qu'on la voit parler. Mais si à la radio, on a une vacuité du discours, une sorte de vanité même de l'autre qui s'écoute parler, ça marche plus du tout, on perd tout. À la télé, on peut se permettre d'avoir des gens qui s'écoutent parler parce qu'on les regarde après tout. Je vais pas citer de nom, mais il y a plein de situations dans lesquelles ça fonctionne. Mais on voit bien que c'est très différent. Il y a autre chose aussi qu'on a maintenant et qui change complètement le discours télévision aussi, c'est le fait qu'il n'y a plus d'intervieweur. Il y a un intervieweur qui en fait est un relais entre la régie et le plateau. Donc c'est quelqu'un qui a l'oreillette en permanence et à qui on dicte des questions d'une forte unité d'intelligence. Ce qui fait qu'on a souvent l'impression qu'on a un de la rue surpuissant et avec toujours la bonne question, alors que derrière il y a trois personnes qui se relaient et qui on les fiche et qui en régie lui envoient dans l'oreillette les bonnes questions. Donc ça fait évidemment une animation extrêmement rapide, extrêmement fine et souvent extrêmement maligne, mais qui n'est pas le résultat d'une qualité d'animateur, mais d'une qualité technique d'organisation d'un système organisé pour que la personne qui interviewe soit le plus efficace possible, dans un contexte de direct, justement. Ah. On a ça aussi à la radio, d'ailleurs, parfois.
C'est-à-dire, vous avez ça à la radio dans quel sens?
Dans le sens où, pour certaines émissions, on a des gens en régie qui sont capables de gérer le direct, c'est-à-dire d'aider la personne qui a également l'oreillette à qui on va indiquer des choses. Mais c'est beaucoup moins net en radio. Souvent, le professionnalisme des gens qui interviewent, tel qu'ils ont déjà leur série de questions assez sensées, il n'y a pas le stress du direct télé qui est quand même très différent du stress du direct radio. Et donc, tout se passe relativement plus simplement. À la télé, tout va mal passer. C'est-à-dire, on a une hésitation, une recherche sur une fiche. Le fait que pendant que l'autre parle, on est en train de regarder ses fiches, ça ne passe pas à la radio, on ne le voit pas. Donc, on peut faire une interview d'une manière assez, finalement, souple. À la télévision, on ne peut pas se permettre ça. On est toujours le regard sur vous est posé. Donc il ne faut pas qu'à quelconque instant vous donniez l'impression d'une personne incompétente qui cherche les fiches. À la radio, ça ne se voit pas.
Donc à la radio, on voit moins de choses, donc du coup, on peut cacher plus de choses. Et moi, ça me paraît extrêmement intéressant parce que justement, je fais ces interviews parce que je suis en train de préparer une émission de radio. Et justement, l'hésitation, le bégaiement, des choses comme ça m'intéressent particulièrement. Mais je sais pas si ça va intéresser énormément de personnes, mais j'aime bien en fait entendre des manifestations comme ça.
C'est-à-dire qu'il y a des limites, au naturel. Si au bout d'un moment le naturel est tel qu'il y a une perte de substance, une perte d'attention de la part de l'auditoire, parce que c'est quand même l'auditeur qui est décisif, à ce moment-là, il faut modifier le naturel. Donc ça veut dire pour modifier le naturel, soit qu'il n'y a pas de nature, et donc on est avec des fiches, soit qu'on porte une telle attention à ce qu'on va dire, que d'une certaine façon, il disparaît derrière du professionnalisme. Je sais que je ne connais absolument aucun journaliste radio qui, lorsqu'il présente un journal ou un flash, n'a pas intégralement écrit tout son texte. On ne peut pas se permettre de lire une dépêche, fût-ce une brève, qui parlerait du conflit entre Hezbollah et Israël, sans avoir l'intégralité des adverbes écrits, et les adjectifs, et les substantifs. Tout est absolument codifié, noté. Il n'y a pas un mot en plus qu'on va ajouter, parce que si on rajoute le mot, on risque de décrocher de la phrase et on risque de se planter. Donc, il y a très peu d'improvisation. Ce qui est très fort dans l'écriture radio, fondamentalement, c'est donner l'impression d'une improvisation naturelle sans qu'il y en ait une once.
Mais du coup, par exemple, pour les infos, comme vous venez de me parler, est-ce qu'il y a des gens qui se permettent une subversion infime ou quelque chose comme ça?
Au bout d'un moment, le fait qu'on est un professionnel de la radio, je pense, ce qui n'est pas mon cas, parce que j'en fais de manière un peu dilettante, fait qu'on est capable, à partir de son propre texte, tout en restant dans sa propre voix et dans son propre discours, de broder. C'est-à-dire de faire une digression, d'ajouter quelques phrases parce qu'on a oublié une dépêche et d'en glisser une entre les deux, de faire des transitions qu'on a pensé à faire, tout ceci est parfaitement possible. Ce que je dis, c'est que sur certains sujets, et quasiment sur la totalité des sujets d'un flash, on est incompétent. Et donc il faut faire attention, on ne peut pas parler par exemple d'un vaccin contre le sida alors que ce n'est pas un vaccin mais un sérum, etc. Donc tout doit être écrit, parce que derrière n'importe quelle dépêche, il y a 99% de gens incompétents, mais 1% de gens extrêmement compétents sur ce que vous dites, qui fait très attention. Et si ce 1% se rend compte, et il va bouger ce 1% selon les dépêches, que dans quasiment tous les cas vous vous plantez, la crédibilité même de votre émission, et simultanément donc de la radio pour laquelle vous travaillez, est en chute. Donc vous prenez des risques, professionnellement, vous faites prendre des risques à votre patron, à votre radio, et globalement dans un univers concurrentiel, vous prenez des risques énormes. Donc l'écriture et le fait d'avancer dans un univers balisé, c'est décisif.
Ah, mais c'est très intéressant ce que vous me racontez. Enfin, je pense vraiment, je dis pas ça pour vous dire. Et je pensais à quelque chose. Je voulais vous faire remarquer que justement au Papou, vous donniez l'impression de quelqu'un de très nonchalant, comme ça, qui improvise ces trucs. Et en fait, vous avez une vraie connaissance du médium radiophonique.
D'abord, ça fait 15 ans que je fais les Papous. Donc, au bout de 15 ans, même si on est incompétent et qu'on en fait une fois par semaine, au bout d'un moment, l'incompétence vient de la pratique. L'incompétence vient d'une pratique. Et simplement, je suis en plus, d'une certaine façon, journaliste, une ancienne pratique de journaliste. Donc j'ai une réflexion linguiste. Donc ça m'intéresse, ces questions d'organisation de la langue sur un médium donné. La radio est un médium formidable, on peut faire passer des choses extraordinaires avec le son. C'est un des plus beaux médiums qui existent. C'est à mon avis très supérieur à la télévision, mais c'est à mon avis inférieur à l'écrit. Ça ne joue pas les mêmes rôles. Il y a une partie de la vie qui ne passera jamais à l'écrit, sauf si on a des écrivains qui écrivent. Si vous prenez un reportage d'Albert Londres, on a affaire à un souffle qui fait que des choses qui ne pourraient pas passer à l'écrit passent quand même à l'écrit. Et si vous prenez un reportage classique, une dépêche AFP, rien ne passe. Vous ne pouvez pas décrire une ambiance, vous ne pouvez pas décrire un bruit de mitraillette, c'est un bruit de mitraillette, si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Donc il y a des choses qui passent uniquement à la radio, donc je crois que c'est un médium très fort. la réflexion que j'ai eu envie de la pousser parce qu'en plus j'enseigne plus ce genre de choses.
C'est marrant ce que je voulais vous demander exactement.
Oui, voilà. Je suis enseignant à Paris 3 à Sancier en DESS Master, ça s'appelle, de journalisme. Et donc j'ai un peu réfléchi à ce qui se passe quand on est confronté à un micro et à la délivrance d'informations. Et les papous sont pas du tout dans l'univers de l'information, mais dans l'univers du divertissement. Donc l'univers du divertissement, c'est un univers amical. Et donc les règles qui s'appliquent pour l'information ne s'appliquent absolument pas là. Donc là, il faut une nonchalance. Et là, à la limite, il est préférable d'être un peu flou dans la diction, plus exactement un peu flou dans la phrase, pour établir un lien de proximité. On n'est pas forcé de l'être. On peut très bien avoir un discours dense et être... simultanément avec la même dose d'énergie. Là, l'énergie qu'on passe non pas dans la cohérence, elle passe dans une sorte d'incohérence contrôlée. C'est très compliqué. Mais c'est un signe distinctif de cette émission, qui est de travailler sur une sorte de, ce qu'on disait tout à l'heure, la spontanéité, et en même temps avec un très grand contrôle, puisque c'est du faux direct. Le contrôle est à deux niveaux. Le contrôle est à deux niveaux. Il y a notre propre contrôle, et de toute façon, après, il y a les techniciens qui coupent, qui recoupent, qui suppriment. Il y a souvent des choses qu'on fait qui ne passent pas.
Mais les papous, c'est un statut assez particulier. France Culture aussi, parce que c'est quasiment une des seules émissions de divertissement, peut-être par je sais pas, les émissions de création radiophonique ou des choses comme ça.
Oui, c'est vrai, c'est une des seules émissions de divertissement, mais c'est surtout une seule émission, non pas de divertissement, mais de jeu. Il y a une petite différence entre les deux. On peut faire du divertissement sans faire du jeu. Par exemple, une chanson, c'est un divertissement, mais c'est pas du jeu. Et nous, c'est juste du jeu sur la langue. Et donc, c'est du jeu radio, parce que la langue, elle passe par la radio, donc c'est un jeu spécifique qui est fait uniquement pour passer par l'oral. Donc c'est un peu spécial. Pas forcément par l'oral, parfois il y a des allers-retours. Par exemple, quand on fait un texte sans E, les gens écoutent l'absence de E. Ils écoutent la faute. Donc ça, c'est un truc dans lequel on projette la chose.